Lorsqu'une année commence, nous avons toujours des sentiments mélangés. Parce que nous regardons un peu en arrière, nous pensons à tout ce que nous aurions voulu faire autrement. Et puis nous pensons en avant, et il y a toujours cette incertitude. Que va contenir cette nouvelle année qui commence? De quoi sera-t-elle faite? Que va-t-il arriver? C'est aussi l'occasion de faire des bilans personnels, des bilans pour les entreprises. Mais surtout ces bilans que nous faisons dans notre cœur, concernant nous-mêmes, notre personne, où nous devons nécessairement déplorer des échecs. Nous avons perdu des batailles, nous en avons gagné d'autres. Nous faisons le bilan sur tout un tas de choses qui nous sont personnelles, et nous reconnaissons en tant que croyants que nous avons encore besoin d'une façon particulière de la puissance de Dieu pour que l'année qui s'ouvre soit une année marquée de davantage de victoires que l'année passée. C'est un équilibre à chercher entre la nonchalance, de dire « Oh, c'est pas grave, tout va bien, tout ira bien », et ce n'est pas de la foi, et l'inquiétude qui n'est pas de la foi non plus. Cette recherche de la présence de Dieu dans notre existence pour que ce soit lui qui conduise, et que de cette manière-là nous ayons la paix malgré toute chose. C'est pourquoi, en ce début d'année, j'aimerais partager avec vous trois choses, qui commencent toutes les trois par P. Trois choses qui me paraissent essentielles pour faire de ces mois qui sont devant nous des mois non seulement de victoire chrétienne, mais de marche paisible avec le Seigneur. Les trois P que j'aimerais vous proposer, c'est d'abord une prière, une pratique et une promesse. Une prière, une pratique, une promesse. Alors j'aimerais commencer par la prière. Cette prière se trouve dans les Saintes Écritures, dans le psaume 143. À partir du verset 7, se trouve véritablement une prière que j'aimerais relire avec vous et que j'aimerais regarder d'un petit peu plus près comme la prière qui peut nous introduire auprès du Seigneur, cette prière qui peut nous conduire auprès du Seigneur régulièrement pendant cette année dans notre marche avec lui. On pourrait, bien entendu, aller chercher dans les psaumes de nombreuses prières puissantes. Les psaumes en sont chargés. Les Écritures sont pleines de ces prières des hommes de Dieu. Voici une prière de David. Psaume 143, verset 7, dit ceci. « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. » Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. C'est un passage que nous pourrions apprendre par cœur, que nous pourrions serrer dans notre mémoire pour le présenter au Seigneur comme David l'a fait. Et il y a dans ce passage 5 points, entre autres, que j'aimerais relever ce matin qui ont attiré mon attention. Nous pourrions passer des heures à analyser ce texte de David. Permettez-moi de relever juste 5 points ce matin qui me paraissent importants pour donner à cette prière le sens que David lui a donné lorsqu'il l'a prononcé à Dieu. Tout d'abord, il est écrit au verset 7, « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. » C'est ce cri du psalmiste qui est en train de dire à Dieu, « Seigneur, je n'ai pas d'autre solution que la tienne. C'est Dieu ou rien. » C'est l'attitude de Pierre lorsque Jésus s'adresse aux disciples et leur dit, « Est-ce que vous voulez aussi vous en aller ?» Pierre répond, « Seigneur, à qui irions-nous » Sous-entendu, à qui d'autre pourrions-nous aller? Vers qui d'autre pourrions-nous aller? Qui d'autre pourrions-nous suivre? Nous n'avons, Seigneur, qu'une seule solution. Dans le livre Jésus-Christ, je trouve cette phrase. « Nous n'avons rien pour nous créditer aux yeux de Dieu, mais maintenant et toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention du pouvoir rédempteur de notre Dieu. Faire valoir notre situation désespérée, qui rend indispensable l'intervention de Dieu. C'est une manière de dire, comme le psalmiste dans le psaume 73, « Quel autre au ciel ai-je que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Dieu aime à entendre de notre bouche que pour nous, il n'y a pas d'autre solution que lui. Et s'il tarde à répondre, nous n'allons pas aller chercher une autre solution ailleurs. Seigneur, hâte-toi de m'exaucer, parce que je ne veux pas d'autre réponse que la tienne à ma prière. Et je n'irai pas chercher d'autre solution ou d'autre alternative que celle que tu as prévue pour moi. Même si je dois attendre, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Je suis pressé, Seigneur, d'avoir ta solution, parce que je n'en veux point d'autre. C'est une manière d'exercer notre foi et de dire à Dieu, je choisis ta solution, quelle qu'elle soit. C'est le début de cette prière. Le psaume commence avant, j'en conviens. Ces paragraphes que nous avons lus représentent un moment intense d'intercession avec Dieu. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Le deuxième point vient dans ce même verset, il est dit, ne me cache pas ta face. Cette expression se retrouve souvent dans l'Ancien Testament, la face de l'Éternel. Ne me cache pas ta face. C'est l'appel de David à avoir avec Dieu une relation particulière, une relation intime, une relation proche. Il voudrait voir la face de son Sauveur. C'est un appel à pouvoir le rencontrer d'une manière particulière. On retrouve le même désir exprimé dans le psaume 102 au verset 3. Un vocabulaire très semblable à ce que nous avons ici dans le psaume 143, où il est dit « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je prie. Hâte-toi de m'exaucer. » C'est ce désir d'avoir avec Dieu un contact face à face, d'avoir en face de soi la personne de notre Sauveur. Pas une idée, pas une notion, pas un concept, pas un dogme, cette personne de notre Sauveur. C'est cet appel, c'est cette aspiration à ce que la relation que nous avons établie avec notre Dieu prenne une dimension nouvelle, supplémentaire, un pas de plus, plus proche, une intimité plus grande avec notre Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 14, se trouve ce passage que vous connaissez bien. Un passage que certains ont appris par cœur et qui reprend le même thème, où il est dit, et c'est Dieu qui parle par son prophète, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il y a des conditions. Parmi ces conditions, s'il cherche ma face. Autrement dit, s'il cherche à établir avec moi une relation plus forte, plus étroite, plus personnelle, plus transparente. Ce texte nous donne les moyens de le faire. S'humilier, prier, abandonner les mauvaises voies. En d'autres termes, mettre de côté ce qui empêche d'avoir justement cette relation proche avec Dieu. On a parfois envie d'être dans la situation de Moïse, parce qu'il nous a dit dans les Écritures que Moïse avait une relation particulière avec Dieu. Il voyait, nous dit le texte, une représentation de l'Éternel. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il voyait. Mais on comprend par ce passage que Moïse avait un contact avec Dieu qui était privilégié, spécial, unique. Il parlait face à face avec Dieu. Dans cette prière, David voudrait que sa relation avec Dieu soit davantage une relation de face à face, qu'il puisse lui parler comme on parle à un ami proche. Et nous avons besoin, je crois, de cette expérience beaucoup plus proche, beaucoup plus personnelle, non pas une expérience empruntée, une expérience comme celle de Job qui disait « J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. » C'est une dimension différente dans la relation. Elle n'est pas le fruit du témoignage seulement des autres. Elle est le fruit d'un contact personnel, direct avec Dieu. Le troisième élément que j'aimerais relever dans cette prière se trouve un petit peu plus loin, au verset 8. Il est dit « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » C'est un appel pour que Dieu dirige notre vie. Un appel pour que Dieu mette son nez dans nos affaires. Un appel pour que Dieu réponde à notre impuissance, à notre méconnaissance, et qu'il intervienne, et qu'il ouvre la voie. Dans le psaume 84, au verset 6, il est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Nous voudrions justement que le Seigneur trace ses chemins dans notre cœur, qu'il nous fasse comprendre où se trouve le chemin qu'il a prévu pour nous et qu'il a ouvert. Pour cela, nous avons besoin précisément de l'expérience précédente, celle qui consiste à avoir avec Dieu ce contact beaucoup plus proche, avoir avec Dieu ce face-à-face. Ellen White écrit dans le livre « God Amazing Grace » le paragraphe suivant. Notre travail consiste à restaurer l'image morale de Dieu en l'homme par la grâce abondante que Dieu a répandue sur nous par Jésus-Christ. Oh, nous n'avons aucune idée à quel point nous avons besoin de connaître Jésus et notre Père Céleste de manière à le représenter dans notre caractère. Nous n'avons aucune idée à quel point nous avons besoin de connaître Jésus. C'est par ce moyen-là que, en le connaissant face à face, il va nous révéler dans notre cœur les chemins tout tracés que lui-même a prévus pour que nous y marchions. Apprendre, autrement dit, à donner à Dieu cette carte blanche en lui disant « Seigneur, ton chemin est celui-là seul. Quelle est la voie que tu as prévue pour moi ?» Et vous savez, c'est un risque, en fait, de dire à Dieu, « Seigneur, je veux suivre la voie que tu as prévue pour moi, parce qu'elle est pleine de surprises de toutes sortes. » Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu mette son nez dans toutes nos affaires? Dans toutes nos affaires. Pas seulement les affaires matérielles ou financières, mais dans toutes nos affaires, dans nos relations, dans tout. Peut-être que nous ne sommes pas toujours prêts, et que nous aurons besoin à ce moment-là de revenir à genoux et de lui dire « Seigneur, ouvre mon cœur pour que je voie les chemins tout tracés et que je comprenne aussi les bénédictions qui y sont attachées. » Dans cette même prière du psaume 143, j'aimerais relever un quatrième point qui se trouve au verset 10, où il est dit « Enseigne-moi à faire ta volonté. » David ici est en train de dire à Dieu « Seigneur, donne-moi la force d'obéir. » Vous savez par expérience comme moi que nous ne l'avons pas. Souvent, ni la force, ni même l'envie. Dans sa prière, David dit à Dieu « Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. » C'est un appel à ce que Dieu nous donne la force d'obéir. Il y a dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, une expression intéressante que j'aimerais lire avec vous. Elle se retrouve d'ailleurs au dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Mais je vous propose de regarder dans Romains chapitre 1 et de lire seulement le verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. Il est question ici de Jésus. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance de la foi. Certains chrétiens d'aujourd'hui pourraient penser que puisqu'ils ont la foi, ils n'ont pas besoin d'obéir. L'apôtre Paul nous rappelle que l'obéissance, c'est justement un acte de foi. Obéir, comme le demande David à Dieu, c'est précisément le résultat de cette relation de foi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Parce qu'en réalité, il y a dans ma vie plusieurs volontés. Il y a la mienne qui est tout le temps en train de vouloir prendre le dessus. Il y a parfois même celle des autres qui s'impose à moi. Il y a celle aussi de ce siècle dans lequel je vis avec la pression sociale qui s'exerce sur nous de mille et une manières, parfois même de manière électronique. Et David dit, « Seigneur, c'est ta volonté que je veux. Enseigne-moi à l'affaire. Et remarquez que là encore, David reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite, d'un seul coup, c'est un apprentissage. Il demande que Dieu lui enseigne cela. Ça va donc demander du temps pour apprendre à obéir à Dieu. C'est un apprentissage, comme un enfant doit apprendre à obéir. Nous autres adultes devons reconnaître à quel point notre manière d'obéir demande à Dieu de la patience pour nous apprendre à mieux obéir. Apprends-moi, enseigne-moi à faire ta volonté. Et puis le cinquième point que j'aimerais relever dans cette prière, que je trouve particulièrement significatif dans ce passage, se trouve au verset 11. Il est dit « À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. » À cause de ton nom. David ici souligne quelque chose d'extrêmement important. C'est que notre vie, notre attitude, peut causer préjudice au nom de Dieu. Regardez ce texte avec moi dans le livre du prophète Joël. Dans le livre du prophète Joël, nous retrouvons la même notion. Joël, chapitre 2, verset 17, dit ceci. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi, dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Le prophète ici reprend ce même thème. Seigneur, exauce. Seigneur, fais quelque chose pour ton peuple. Parce que sinon, ton nom va être sali aux yeux des hommes. C'est ici montrer la nécessité pour Dieu de répondre à ses promesses et à sa prière pour la sauvegarde de l'honneur de son nom. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas ne pas exaucer cette prière. Parce que si tu ne l'exauces pas, la honte ne sera pas seulement sur nous, elle sera aussi sur toi. Ce n'est pas possible. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans le psaume 79, le psalmiste reprend la même idée. J'aimerais lire ce passage avec vous dans le psaume 79, au verset 9. Psaume 79, versets 9 et 10. Il est écrit ceci. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations, diraient-elles, où est leur Dieu ? À cause de ton nom, pour que ton nom, dans l'exaucement de cette prière, soit glorifié. C'est ce que David ici demande à Dieu dans le psaume 143. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Autrement dit, il est en train de demander à Dieu un réveil personnel. Il considère qu'il s'est endormi aussi, lui, spirituellement. Et il a besoin de faire l'expérience d'un réveil spirituel. Rends-moi la vie. Il se considère comme mort spirituellement, ayant besoin de l'intervention de Dieu pour lui rendre la vie. Sortir de cette nonchalance spirituelle. Et nous avons besoin de vivre ce réveil. D'autant plus que le temps approche. Dans le livre Conquérant Pacifique, Ellen White reprend les événements qui ont entouré le réveil au moment de la Pentecôte et l'onction du Saint-Esprit. En mettant de côté toute divergence, tout désir de suprématie, les disciples s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu, et en faisant cela, ils se rendaient compte combien grand était le privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. La tristesse remplissait leur cœur à la pensée qu'ils avaient si souvent peiné par leur lenteur à comprendre, par leur manque d'intelligence pour les leçons qu'ils cherchaient à leur inculquer. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver des âmes. Ils se rendaient compte de leurs grands besoins et ils demandaient à Dieu, autrement dit, « Accorde-nous ton Esprit Saint, réveille-nous. » Remarquez que dans ce passage, il ne s'agit pas d'une demande égoïste pour soi. Ils ont en vue une mission à accomplir, de manière à ce qu'ils soient propres à sauver des âmes. Ce réveil nous ne sommes pas les seuls à en bénéficier. Il est destiné à nous amener à remplir la mission qui nous a été confiée. Et dans ce sens-là, l'exemple de la Pentecôte est typique. Ils ont reçu cette onction du Saint-Esprit, ils ont vécu ce réveil personnel dans la chambre haute, et ils sont sortis comme des prédicateurs, ils sont rentrés disciples, ils sont sortis apôtres, envoyés. De la même manière, cette année qui s'ouvre rend nécessaire pour nous, me semble-t-il, cette prière, avec les différents ingrédients qui la composent. Une prière dans laquelle Dieu voudrait que nous vivions un réveil spirituel personnel, de sorte que la mission à laquelle nous sommes appelés puisse s'accomplir à la gloire de Dieu. Une prière. C'est la prière que je vous propose pour cette année, chargée de supplications pour répondre à nos besoins. Et puis je vous avais promis deux autres choses. Une prière d'abord, puis une pratique. Cette pratique, elle se trouve déjà inscrite dans la prière. Nous avons simplement passé par-dessus la phrase qui se trouve au verset 8. Psaume 143, verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Cette pratique consiste à venir à Dieu chaque jour par l'étude de sa parole et par la prière. Vous connaissez ce passage du livre Jésus-Christ. Je ne résiste pas à la tentation de vous le lire à nouveau, où il est écrit « Il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. » Il faudrait y penser de manière détaillée, en nous efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. L'Église adventiste était appelée autrefois le peuple du livre. Je ne suis pas sûr qu'elle mérite encore ce nom aujourd'hui. Est-ce que cette pratique est encore la nôtre? Et si elle ne l'est pas, je crois que c'est le moment ou jamais de reprendre cette habitude de venir à Dieu au début de la journée et de prendre le temps de le voir face à face au travers de sa parole et dans la prière. Et je le sais, le monde dans lequel nous vivons mange notre temps jour et nuit, de mille et une manières. Et on ne le comprend pas parce que les générations précédentes n'avaient pas autant d'appareils pour leur rendre service et leur faire gagner du temps. Et pourtant, il semble qu'ils en avaient plus que nous. C'est un mystère que je ne comprends pas, mais le fait est que le monde dans lequel nous sommes mange notre temps d'une manière incroyable. Alors la pratique que j'aimerais vous proposer pour cette année, c'est celle qui consiste à avoir, au début de chaque journée, un moment paisible, un moment de rencontre personnelle, face à face avec Dieu, au travers de l'étude de sa parole et de la prière. D'ailleurs, si l'on veut que la prière que nous avons regardée tout à l'heure un peu plus en détail s'accomplisse, l'étude de la parole et la prière seront nécessaires, parce que aucun réveil ne s'est jamais produit sans avoir recours à la prière et à l'étude de sa parole. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous proposer de prendre le temps et de développer de cette manière une nouvelle habitude. Nous avons l'habitude de manger plusieurs fois par jour. Nous avons l'habitude de faire un certain nombre de choses et c'est devenu naturel, c'est devenu facile parce que c'est devenu une habitude. Est-ce que nous ne pourrions pas faire de cette rencontre avec Dieu une habitude aussi, un besoin? Peut-être qu'au début, cette rencontre sera un peu plus courte. Et puis nous nous rendrons compte avec le temps que nous avons besoin que cette rencontre soit un petit peu plus grande, un peu plus longue. Parce que nous aurons besoin de passer plus de temps avec celui que nous aimons en particulier. Le Seigneur Jésus, dans la communion avec lui et dans la prière, et même dans les supplications. Cette pratique, je vous propose de la restaurer si elle s'est perdue, si elle s'est estompée, si elle s'est détruite par les soucis de la vie. Restaurer cette habitude de prendre un moment significatif de paix et de contact personnel avec Dieu. Si je souhaite que le Seigneur me parle, si je souhaite que le Seigneur me montre sa voie, si je souhaite que le Seigneur m'apprenne à lui obéir et qu'il provoque en moi un réveil, il faudra que je vienne à la source et que je lui en donne aussi les moyens. Une prière et puis une pratique. Il y a une troisième chose, une promesse. La promesse, il n'est pas nécessaire d'aller la chercher très loin. Elle se trouve tout simplement dans la suite du texte que je viens de vous lire dans Jésus-Christ. La suite de ce texte qui nous invite à prendre une heure chaque jour pour méditer sur la vie de Jésus, continue en disant « En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ sera plus constante, notre amour sera plus profond et nous serons animés par son esprit de manière plus complète. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. » Vous avez remarqué, c'est une promesse en trois morceaux. Notre confiance en Christ sera plus constante. Et nous avons tous fait l'expérience de cette foi comme une feuille de température avec des hauts, avec des bas, qui monte et qui descend et qui monte et qui descend. La promesse qui nous est faite comme conséquence de cette pratique, c'est que notre confiance en Christ sera plus constante. Les creux, les moments de découragement ou les défaites seront moins fréquents. Notre foi sera plus stable, plus durable, plus permanente, moins sensible aux variations d'humeur, du temps, de l'ambiance, moins sensible aux circonstances extérieures, beaucoup plus stable et permanente. La deuxième partie de cette promesse nous dit: notre amour sera plus profond. Et nous pensons que nous aimons Dieu, et Pierre pensait aussi la même chose. L'apôtre Pierre était convaincu d'aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur, et puis devant l'épreuve, les circonstances ont montré que son amour était en fait bien relatif. Et vous le savez comme moi, ce sont souvent les épreuves qui révèlent la solidité de notre amour, non seulement dans nos relations humaines, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Cette promesse nous est faite, notre amour sera plus profond. Mais finalement, nous serons animés par son esprit d'une manière plus complète. Nous sommes conscients que l'esprit de Dieu nous conduit et nous permet aussi de changer, parce que sinon nous ne serions pas arrivés où nous en sommes aujourd'hui et nous ne serions pas là ce matin. Mais nous sommes conscients aussi qu'il y a un chemin immense encore à faire, et que nous ne sommes pas capables de l'accomplir si ce n'est par la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit. Si le Seigneur ne nous donne pas son esprit dans une mesure particulière, d'abord son œuvre ne se fera pas en nous et dans le monde non plus. Parce que nous devons reconnaître que la mission de l'Église n'est pas à la hauteur du développement qu'il y a dans le monde. Nous n'arriverons jamais, si nous continuons de la sorte, à atteindre le monde entier, parce que le monde entier grandit plus vite que l'Église. Il faudra par conséquent que nous prenions conscience du fait que nos ressources sont insuffisantes et misérables pour remplir la mission que le Seigneur nous donne. Il faudra qu'il nous accorde son esprit dans une mesure plus complète pour que son œuvre s'accomplisse, non pas avec nos moyens, nos ressources et nos stratégies, mais comme le dit le prophète, non par la force et par la puissance, mais par son esprit. Ainsi, cette année qui commence m'invite à venir au pied du Christ, et je vous propose de faire la même chose, et de mettre cette année sous le signe d'une prière, celle que nous avons vue, par exemple, dans le psaume 143. Rends-moi, Seigneur, la vie. De mettre cette année sous le signe d'une pratique, celle qui consiste à venir chaque jour rencontrer le Seigneur dans l'étude de sa parole et dans la prière. Et je vous propose de saisir cette année les promesses qui nous sont faites. La promesse d'une foi, d'un amour plus grand pour le Christ, et d'une mesure particulière de son esprit pour remplir la mission qu'il nous a donnée. Une année s'est achevée, c'est-à-dire qu'une année de plus nous rapproche du retour du Seigneur, qui nous accorde la grâce d'être prêts pour ce jour-là. Amen.